La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale. Bienvenue au podcast « La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale ». Émilie Gagné en compagnie de l'historien Félix Fournier. Félix, lors des derniers épisodes, on a parlé avec Tom Eden et quand on s'est laissé, vous parliez de la bataille d'Hong Kong. Où est-ce qu'on en est rendu là, dans notre grande Deuxième Guerre mondiale?
Mais si je pense que c'est le temps justement de faire un bilan global pour présenter les choses... Parce que c'est la période peut-être la plus sombre de la Deuxième Guerre mondiale.
C'est un tournant qui a été franchi.
Comme disait si bien Winston Churchill, « The darkest hour », les heures les plus noires ou les jours les plus noirs de la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce podcast, c'est l'année 42. Oui, les années les plus noires, mais le rayon d'espoir à la fin.
Oui, parce qu'au début de cette année-là, ça allait pas très bien pour les Alliés.
Les Alliés sont au plus bas. Les Japonais sont entrés en guerre. Ils ont pris Hong Kong, comme on l'a vu dans le dernier podcast. Les troupes allemandes sont à 16 km du Kremlin à Moscou. On voit les troupes allemandes voient les drapeaux sur le Kremlin. Mais pour ce qui est de l'Union soviétique, les troupes qui étaient stationnées en Sibérie, parce qu'il y avait beaucoup de troupes, là, parce qu'ils ne savaient pas encore avant le 7 décembre si les Japonais allaient attaquer les Américains ou la Russie, parce que...
La Russie était vulnérable.
Exactement, parce qu'ils étaient déjà attaqués par les Allemands. Les Allemands étaient avancés super loin. Les Japonais étaient alliés avec les Allemands. Si on dit si, d'un point de vue purement militaire, l'attaque russe ou soviétique était la plus logique pour le Japon. Pourquoi ils ont attaqué les Américains qui, eux, étaient neutres et qui étaient un géant qui dormait? C'est une très grande question d'histoire. Donc, tout de suite, après l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, les troupes qui sont stationnées dans la péninsule du Kamtchatka, qui est comme la péninsule super proche du Japon, il y a comme 4 divisions sibériennes de troupes qui viennent de la Sibérie qui sont stationnées là.
Au cas où.
Ben, c'était pour défendre contre l'attaque du Japon. Mais là, le Japon attaque de l'autre côté. On met toutes ces troupes-là dans les trains, dans l'Orient Express, et on les rapporte directement à Moscou pour se battre avec les troupes allemandes. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire savent que les hivers sont abominables en Russie.
Pire que ceux gaspésiens.
Presque. Presque. Et ces troupes-là sont des troupes qui sont habituées au froid parce que c'est des gens de la Sibérie. Ils défilent directement sur la place Rouge à Moscou et vont rejoindre les troupes qui se battent contre les troupes allemandes directement à pied parce qu'ils sont tellement proches. Donc, ces renforts-là vont faire probablement que l'Allemagne nazie ne pourra pas prendre Moscou.
Du côté des alliés britanniques, qu'est-ce qui se passait pour eux?
C'est vraiment, ils sont au plus bas. Ils sont repliés sur à peu près l'ensemble des fronts après avoir perdu Hong Kong. Ils subissent les foudres du film Feldmarschall, Erwin Rommel, qui est... un très, très grand militaire allemand qui combat en Afrique du Nord, qui pousse les troupes anglaises là, jusqu'à tellement loin en Égypte que les Anglais ont peur de perdre le canal de Suez. Et ça, c'est super important parce que l'Espagne est neutre. Vous avez l'entrée de la Méditerranée à Gibraltar, puis vous avez l'autre partie à Suez. Il y a seulement ces deux points-là. Fait que si les troupes anglaises perdent Suez, on ne peut plus transférer les troupes de ce côté-là. Ça fait que l'Afrique du Nord est perdue. Puis l'Afrique du Nord, ben, juste après, ben, vous avez tout le Moyen-Orient avec le pétrole.
Un nerf de la guerre, comme d'habitude.
Exactement. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le pétrole revient souvent. Donc, notre ami Winston Churchill, qui sent la soupe extrêmement chaude, décide, malgré qu'il a fait une crise cardiaque en novembre 41...
Un homme qui est assez robuste quand même, parce que c'est pas tout le monde qui, après avoir fait une crise cardiaque, serait d'attaque justement pour aller convaincre des amis.
Pour vous donner une petite idée, parce que Winston Churchill est un personnage qui a écrit beaucoup de biographies, il y a beaucoup de biographies d'écriture, il a écrit son autobiographie. Je vous recommande l'ensemble de l'œuvre, c'est magnifique.
Il y a un film aussi.
Oui, plusieurs films sur Winston. Un de ses conseillers lui demandait, mais Winston, Monsieur Churchill, pourquoi vous appuyez l'Union soviétique? Parce que c'était un anticommuniste notoire. Et il répondait, si Adolf Hitler décidait d'envahir l'enfer, je trouverais le moyen d'envoyer du matériel au diable. Ce qui est une phrase qui représente extrêmement bien le personnage, puis qui nous donne toute la détermination qu'il va avoir. Parce que même si L'Angleterre est au plus bas là. Il n'y a même pas question d'abandonner. Mm. Fait qu'il décolle après sa crise de cœur. Il s'engage pour un séjour de 2 mois en Amérique du Nord où il va aller rencontrer le gouvernement américain pour déployer le plus rapidement possible des troupes américaines. Et ensuite, il vient nous voir au Canada et il fait un speech, comme lui seul sait le faire, au Parlement canadien.
Enflammé, sûrement.
À l'endroit où il reprend le point le plus marquant, c'est que le gouvernement français, après la chute du gouvernement, disait que les Allemands allaient tordre le cou du poulet anglais extrêmement rapidement. Et Winston Churchill de dire « quel poulet, mais surtout quel cou », parce qu'ils nous ont pas tordu le cou. On va d'ailleurs en écouter un extrait de Winston Churchill qui s'exprime en français au Parlement canadien.
Et partout dans la France, occupés et inoccupés, car leur sort est égal, les honnêtes gens, le grand peuple, la nation française se redresse. L'espoir se rallume dans les cœurs d'une race guerrière. Même des armées, berceaux de la liberté révolutionnaire et terrible aux vainqueurs esclaves.
C'était Winston Churchill qui s'est exprimé en français, comme vous venez de l'entendre. On le sait, lorsque on s'exprime, on fait l'effort justement de s'adresser à nous dans la langue française. Des fois, ça vient toucher une corde un peu plus sensible et l'écoute est plus grande. Est-ce que Winston Churchill, a réussi à convaincre les Canadiens de s'enrôler, particulièrement les Canadiens français?
C'était le but de l'opération, c'était aussi de faire revivre la fibre avec, parce que la France, il parle de la France, puis là il dit la France est tombée, mais la résistance existe, tu sais, puis c'est un peuple qui s'est battu souvent, c'est un peuple guerrier, puis là ils ont perdu une bataille, mais ils vont pas perdre la guerre, pour justement stimuler tout le côté francophone. C'était très très bien fait.
La fierté francophone aussi.
Oui, effectivement, mais il y a déjà le recrutement est déjà très bon. Parce qu'on a déjà plein de témoignages de soldats canadiens qui, eux, se sont enrôlés. Puis justement, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire dans la deuxième partie.
Le podcast parle de la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale. J'imagine qu'à quelque part là-dedans s'insère la participation de nos Gaspésiens au combat.
Oui, parce que c'est une période un peu plus... C'est une période d'attente pour les soldats. Parce que c'est sûr qu'on se souvient de nos Gaspésiens qui étaient à Hong Kong. Pour eux, la Deuxième Guerre mondiale, le combat est terminé. Le restant de la guerre va être atroce pour eux autres, on en a assez parlé. Mais c'est ça, il n'y aura plus de combat. Mais les autres qui sont sur le front européen, eux, sont dans la période d'attente. Ils ont traversé l'Atlantique, ils sont stationnés, il y a de l'entraînement au Canada. Mais si on se fie au témoignage de Georges Isabelle, qui lui était natif de Capshaw, qui est un soldat du régiment de la Chaudière. Depuis son enrôlement, Georges Isabelle n'a pas touché aux armes. Parce qu'il s'entraînait beaucoup au niveau physique, mais il va attendre. Ça va être seulement quand il va arriver au sud-ouest de Londres, dans son cantonnement avec le régiment de la Chaudière, dont il est mitrailleur.
Mitrailleur, il n'y a jamais rien tenu dans ses mains.
Mais en fait, c'est ça. C'est parce que mitrailleur, le terme va venir parce qu'ils vont trouver selon les... Il n'y a pas d'histoire militaire. Les gens ne sont pas soldats. Fait que là, ils les mettent à l'entraînement. Puis, par leurs habiletés, ils vont être finalement, ça va
dispatcher, si on peut
exactement,
dire.
Exactement, ça va conditionner ce qu'ils vont faire. Malheureusement, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient des hauts niveaux de scolarité, il va y avoir très peu de Gaspésiens qui vont être dans l'aviation. Ils vont surtout être sur le terrain. Il n'y aura pas d'officiers. Il y a quelques super officiers, on en a parlé un peu, mais on va en parler encore plus. Mais c'est ça, lui, après son entraînement, il va recevoir en Angleterre son premier fusil.
Probablement un grand moment pour lui comme ses coéquipiers dans l'armée, parce que on s'entraîne pour ça, c'est le but derrière tout ça.
Exactement, malheureusement la finalité c'est que les gens qui s'enroulaient, il y en avait quelques qui caressaient des espoirs d'aviation, c'était comme l'espèce de chevalerie, mais il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais il va y avoir beaucoup de gens eux qui vont être sur le terrain, puis c'est ça, l'entraînement, la réception de l'arme, c'est comme le point tournant, parce que on est déjà en 42, près de 42, l'Union soviétique travaille très fort. C'est fou comment ce qui se passe à Moscou peut influencer ces Gaspésiens-là, parce qu'il y a une demande permanente de Staline, qui est à la tête de l'Union soviétique, pour un deuxième front en Europe. Fait que là, il accélère justement en 42 l'entraînement. Les conditions de vie sont très dures parce que vous imaginez la quantité de soldats qui est déplacée vers l'Angleterre. On n'a pas les commodités, c'est des baraques de fortune. Ils dorment à 25 à 40 personnes, comme M. Isabelle nous le décrit. Il n'y a aucune chambre privée. Puis le quotidien des soldats gaspésiens va être même en grande partie de l'entraînement militaire. Puis c'est parce qu'ils sont pas nécessairement familiers avec la rigueur militaire. Et pour ça, j'ai une petite anecdote de M. Émile Le Celleur qui s'était enrôlé. Mais M. Le Celleur, son grand-père était né à Jersey, aux îles anglo-normandes, comme beaucoup, beaucoup de Gaspésiens. Mmh. Puis lui, il voulait aller se battre, mais en Europe, parce qu'il caressait le rêve de passer d'une façon ou d'une autre à Jersey, sur l'île de ses ancêtres. Mais il avait été affecté dans la scène pacifique, puis aller justement à Hong Kong pour défendre Hong Kong, comme les Gaspésiens qu'on
entend. Il s'est ramassé loin de son but.
Non, pas du tout.
Non?
Parce que il s'est évadé du camp pour ne pas être déplacé, pour ne pas aller sur le front pacifique. Ne pas aller à Hong Kong. Puis là, il avait établi les gens, puis il disait, eux vont aller à Hong Kong. Puis là, il fait comme, non. Mais il dit pas fort. Ça fait qu'il se sauve. Il est rattrapé avec deux autres amis. Il est rattrapé par la police militaire. Va passer un peu de temps dans un camp de détention.
Oui, parce que c'était obligatoire d'être là.
Je veux dire, même si t'étais enrôlé volontaire...
Une fois que t'es enrôlé, tu ne fuis pas.
C'est ça, tu ne peux pas quitter. Puis il y a des bonnes instances au niveau de l'armée pour te récupérer. Ça fait qu'ils vont le récupérer, il va revenir, mais... Il va se sauver d'Hong Kong. Effectivement, il va être déployé, mais il va être déployé beaucoup plus tard pour le débarquement de Normandie. Il sera, retenez ce nom, Émile Le Celleur, qui a un magnifique récit de sa bataille, de sa participation.
Depuis que je te connais, Félix, il y a un personnage de l'histoire gaspésienne qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale qui t'intéresse beaucoup parce qu'il y a un lien de sang avec toi. C'est Firmin Fournier. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui, pendant cette Deuxième Guerre?
J'ai eu la chance, parce que oncle, c'est mon grand-oncle, Firmin Fournier, puis il n'y a pas écrit sa participation à la guerre. Et moi, dans un concours de circonstances obscures, je me suis ramassé avec lui pendant qu'il était en train de fendre du bois. Un après-midi d'été, il faisait beau. Je me souviens qu'il faisait très beau. Puis je lui ai demandé, c'était quoi la guerre, oncle Firmin?
Est-ce qu'il t'a romancé ça un peu pour te mettre ça plus beau ou il a été quand même près de la réalité?
Non, il était... C'est parce que lui, par un concours de circonstances, je vais vous expliquer, il va faire toute la Deuxième Guerre mondiale, mais à 3 jours du front, parce qu'il est sur les radiocommunications. Parce qu'il m'explique un principe simple. Il m'a dit, durant la période qu'on était stationné en Angleterre, on ne faisait que de la drill. C'est le mot qui revient plus souvent. La drill, c'est de l'entraînement. L'avant-midi, vous faites entraînement, parade. Beaucoup de parades militaires. Pourquoi la parade militaire? Ça peut avoir l'air bête comme ça, mais le fait d'être ensemble puis de parader en rang ordonné, ça donne comme une espèce d'esprit de corps. C'est super fort parce qu'ils savaient, les instructeurs qui, eux, étaient souvent de la Première Guerre mondiale, parce que les officiers plus gradés étaient de la Première Guerre mondiale, savaient qu'ils auraient besoin d'une obéissance absolue. Mm-hmm. Donc, le fait d'être ensemble, ça construit l'esprit de corps, puis tu vas être avec ces gens-là. Fait que tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement pour être en forme physiquement, mais aussi beaucoup de parades pour être coordonné. Parce qu'il faut falloir que tu sois coordonné quand tu vas attaquer. Et oncle Firmin n'aimait pas du tout faire de la parade. Il disait c'était trop chaud et c'était plate. Ça fait qu'il y avait seulement une façon de se sauver de la parade. C'était de faire des formations. Puis c'était quelqu'un qui maîtrisait déjà l'anglais, qui a appris tout de suite l'anglais en arrivant en Angleterre. Parce que bien sûr, comme il était natif de Grande-Vallée...
C'est pas fréquent.
Ce n'est pas là qu'il avait appris, bien sûr, la langue de Shakespeare. Donc, il avait appris tout de suite l'anglais. Puis il s'est mis à les formations de... Parce que quand vous parlez en anglais, vous avez accès à plus de formations. Parce que vous étiez en Angleterre. Fait qu'il a fait des formations pour les radiocommunications. Qui avait été peu employé durant la Première Guerre mondiale, mais qui allait être appelé à être beaucoup, beaucoup employé durant la Deuxième Guerre mondiale. Sa maîtrise de la langue de Shakespeare, sa maîtrise du français, bien sûr, puis sa connaissance de ses formations en radiocommunication vont faire qu'il va être associé avec des officiers de haut rang anglophones pour communiquer avec les soldats francophones et éventuellement avec les citoyen français lors du débarquement de Normandie.
Il a été un intermédiaire dans tout ça. Un autre Gaspésien qui était stationné en Angleterre, c'est Lester William Les Coffin.
Et oui, c'est des témoignages que j'ai recueillis. C'est un site fait par l'armée canadienne et Patrimoine Canada ou Souvenir Canada. Je vous trouverai exactement le nom pour le prochain podcast. Puis, justement, ils ont colliger des témoignages de gens qui ont survécu. Puis lui, il nous parle justement de M. Coffin. Il nous parle du moment où il a reçu sa 303, son arme, son fusil d'assaut. Mais ce qui l'avait plus marqué, c'était aussi la baïonnette.
Au bout?
Qui était la baïonnette au bout. Chose qui était sûrement pour un jeune garçon, quelque chose qui est...
Très fascinant aussi.
Oui, c'est ça, ça double tranchant.
Jeu de mots.
Oui. Humour militaire. Et c'est ça, il va recevoir ce matériel-là, puis il parle lui aussi de l'entraînement. Des Sten Guns et des Brand Guns, c'est des mots qui reviennent beaucoup chez les anciens combattants.
Ça, c'est quoi?
C'était des formes de mitraillettes anglaises. Mitraillettes, t'avais la mitraillette à main. C'est parce que c'était pas tous les soldats qui avaient la mitraillette. Hein. T'avais le 303 qui était l'arme standard, on pourrait dire. L'arme à coup, tu payes sur la gâchette, t'as un coup, tu payes sur la gâchette, t'as un coup.
Tout le temps rechargé.
C'est ça. T'as comme un chargeur de 5 coups. Puis après ça, c'est fini. Mais t'as justement, parce que la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les mitraillettes portatives.
Plus rapides aussi. Exactement. À décocher.
Exactement. Puis t'avais les immenses mitraillettes anglaises qui étaient sur pied. Il y avait le fusil Brand Gun, qui, lui, était obligé d'être manipulé par deux soldats, parce qu'il y avait un qui portait les munitions et l'autre était le manipulateur, l'opérateur de la mitraillette sur pied. C'est quelque chose qui pesait, on parle d'une trentaine de livres faciles.
C'est pas quelque chose qui se transporte facilement, individuellement.
C'est ça. Fait, il y avait une équipe pour ça. Puis c'était, bizarrement, il y avait comme un sentiment de sécurité d'avoir peut-être l'arme avec le plus gros calibre.
D'avoir quelqu'un avec soi aussi, justement, un peu comme à la parade, on a un compagnon à côté. Donc là, d'être deux, on devient une équipe et on se sent peut-être plus fort.
Par contre, vous attirez beaucoup l'attention de l'ennemi.
Oui,
parce que c'est vous qui avez la plus grosse mitraillette.
Et sûrement la plus grosse cible.
Oui, c'est ça, parce que c'était chaque attaque, le point de concentration de feu va être sur la grosse mitraillette, que ce soit du côté anglais ou du côté allemand. Mais nous n'en sommes pas encore au combat, nous sommes encore sur le terrain anglais et la manipulation. Et M. Coffin mentionne lui aussi les heures interminables d'entraînement avec l'ensemble du matériel militaire. Tout ça dans le but d'être assez en forme pour pouvoir aller combattre.
Un autre qui a participé à la Deuxième Guerre et qui était stationné aussi en Angleterre, un homme de Gaspé, Sidney Wallace Sams, dit Sammy.
Et lui, qui voulait joindre, bien sûr, l'aviation, ben lui, il a réussi, mais pas comme pilote. C'était un super mécano dans son témoignage, puis il va être affecté tout de suite au travail, parce que même si les Anglais n'avaient pas encore débarqué en Angleterre, la Royal Air Force, l'aviation anglaise, combattait jour après jour les attaques nazies sur l'Angleterre, que ce soit en bombardier ou en chasseur. Fait qu'il y avait des flottes d'avions, le Spitfire Supermarine, l'avion le plus magnifique de l'histoire de l'humanité. Et ça prenait beaucoup, beaucoup de gens au sol pour réparer ce matériel-là, parce qu'il y avait beaucoup d'usure, parce qu'on parle d'une utilisation qui était continue des avions. La limite, c'était pas l'avion, c'était plus les pilotes qu'il fallait qu'ils dorment.
Oui, parce que tu peux pas, si tu t'endors au volant de ton avion, tu sauves du travail aux Allemands.
Et beaucoup de témoignages font dire que c'était pas le temps de tomber endormi. Ça fait que c'est ça. Sammy Sams va être un mécanicien. Puis lui, il va être, pour lui, la guerre, même s'il n'y aura pas le débarquement, ça va être un travail très tôt de mécanique et de réparation pour tout. Parce que comme on était en pénurie aussi, chaque pièce d'avion qu'il mentionne dans son témoignage, chaque pièce qui était réutilisable était réutilisée.
On les usait à la corde.
C'est ça, même sur les avions qui s'étaient écrasés. Quand vous aviez un avion qui s'écrasait, vous aviez une forme de cannibalisme dans lequel toutes les pièces qui sont encore bonnes vont être réutilisées tout de suite dans les garages, puis il va y avoir seulement je crois bien que le métal va être réutilisé pour la fonte très rapidement. C'était une période où on gaspillait peu.
Le prochain pan d'histoire qu'on va aborder a tous les éléments là, pour construire une très bonne intrigue digne d'un livre ou encore d'un film. On parle d'un auteur célèbre et de la famille royale britannique.
On parle de l'opération Jubilée, beaucoup mieux connue sous le nom de débarquement de Dieppe ici en Gaspésie.
Le débarquement de Dieppe, en quoi ça consiste et ça a été quoi en fait l'impact de nos Gaspésiens?
C'est que ce débarquement-là est dû, pour la petite histoire, c'est un débarquement qui était dû aux pressions justement de Staline et de l'Union soviétique pour l'ouverture d'un front en Europe. En 42, c'est à cette période-là, le débarquement va avoir lieu en août 42, 19 août 42. La période avant, la majorité des combats sont faits sur le front de l'Est. C'est les Allemands contre les Soviétiques. Mm-hmm. Staline n'a que très peu de répit. L'ensemble des troupes nazies sont lancées. Fait qu'ils demandent de façon active à recevoir une ouverture, une attaque pour que les Allemands déplacent leurs troupes vers le front de l'Ouest et relâchent un peu de pression.
Diviser pour mieux régner.
Ben, c'est parce que actuellement c'est ça, la situation n'est vraiment pas rose pour l'Union soviétique parce que l'été 42 va faire les Allemands après une déstabilisation de l'hiver 41. Là, ils lancent l'ensemble des troupes. C'est vraiment à ce moment-là où...
On décide un peu de jouer quitte ou double, peut-être?
Oui, mais c'est aussi à ce moment-là, si Moscou tombait, c'était la fin. Parce que là, les troupes, justement, seraient... toutes les troupes qui étaient à l'est seraient revenues à l'ouest et qui auraient empêché de façon presque définitive un débarquement des Alliés. Fait que les Alliés précipitent un peu un débarquement pour différentes raisons. Pour, justement, satisfaire Staline, mais aussi pour la petite histoire. T'as parlé que c'était tellement un grand scénario, mais oui, parce qu'il y avait Ian Fleming.
Oh, c'est l'auteur de James Bond, ça.
Tout à fait. Qui, lui, travaille pour les services secrets anglais. Ces histoires qu'il va écrire sont...
C'est comme ça qu'il s'est inspiré.
Exactement. C'est magnifique. Puis, sous l'égide de Lord Mountbatten...
Mountbatten, ça sonne famille royale, le prince Philippe.
Exactement. C'était l'oncle du prince Philippe. Qui, lui, était un militaire de carrière.
Qui... Allemand ou...
Ça, c'est une longue histoire.
Oui, c'est ça. Un autre podcast.
Un autre podcast. En fait, Louis Mountbatten avait changé de nom dernièrement, durant la Première Guerre mondiale, parce que son nom de famille, c'était Von Battenberg.
Ça sonnait trop allemand.
Exactement. Et la famille anglaise, qui va devenir les Windsor, mais qui sont le grand-père de... Élisabeth II, était des Saxe-Cobourg-Gotha, qui étaient aussi allemands. Donc, durant la Première Guerre mondiale, ils vont tous changer le nom de famille.
Beaucoup plus simple, de toute façon, Windsor.
Exactement. Et Von Battenberg va devenir Louis Mountbatten, qui est, comme on l'a dit, l'oncle du prince Philippe.
Et lui, qu'est-ce qu'il a fait?
Il était à la tête, justement, de l'opération Jubilé. Cette opération qui sera malheureusement un fiasco.
Ah oui, ça a pas fonctionné.
C'est parce que rétroactivement, il y a un historien du nom de O'Keefe, qui est montréalais, qui a consacré une grande partie de sa vie, sa carrière professionnelle, à travailler sur les raisons profondes de ce débarquement-là. Et ça nous apporte à une autre chose. Est-ce que je t'ai déjà parlé de la machine Enigma?
Tu m'en as jamais parlé, mais il me semble que ça me rappelle un film qui est sorti il y a quelques années, Imitation Game.
Tout à fait. Pour la petite histoire, parce que justement, l'historien O'Keefe nous apporte avec Ian Fleming et que l'opération du débarquement de Dieppe n'aurait été qu'un couvert pour récupérer une nouvelle machine Enigma. La machine Enigma, je vous fais ça très, très vite, inventée au début des années 20 par un banquier allemand. C'est un système d'encryptage. Encryptage, comme quand vous allez sur un site de votre banque ou votre caisse favorite, quand il vous dit « c'est encrypté ». Pour pas que les gens vous volent vos données. Eh bien, c'était le principe de ça.
Donc, envoyer des messages sans que personne puisse les décoder.
Exactement. Donc, la machine existe, elle sert pour les banques, pour les transactions bancaires. Quand la guerre commence, l'état-major de l'Allemagne nazie voit tout de suite la force de ça et va établir dans l'aviation, la marine et l'armée de terre des machines Enigma. Les premiers modèles ont seulement 3 rouleaux. 3 clés d'encryptage. Je vous invite à aller voir ça sur Internet, Machine Enigma.
Et là, j'imagine qu'on voulait la voler pour être capable de résoudre le code de décryptage?
Non, c'est qu'il avait sorti une nouvelle machine à 4 rouleaux.
Oh.
Et c'est ça qu'il voulait voler aux soldats allemands.
Oui, parce qu'un quatrième rouleau, ça rajoute quand même beaucoup de possibilités.
Pour vous donner une petite idée, même avec votre ordinateur à la maison qui est extrêmement puissant, ça prendrait des années à décrypter les codes de la machine Enigma actuellement. Mais il y aura un génie qui s'appelle Alan Turing.
Dont il est question dans le film The Imitation Game. Donc, le débarquement de Dieppe serait un espèce de camouflage pour aller chercher cette machine-là?
Exactement, pour avoir le dernier modèle de la machine Enigma, qui sera rapporté en Angleterre à Bletchley Park pour servir pour décoder toutes ces communications entre les Allemands.
Donc, cet objectif-là a été atteint, mais j'imagine qu'on a eu d'autres obstacles ou d'autres péripéties pendant ce débarquement-là?
Oui, parce que la nuit du 18 août, avant la mise en place du débarquement, les gens qui vont être affectés, comme les fusiliers de Mont-Royal et l'UG Hood de Petite-Vallée, lui va recevoir justement très peu d'informations. Ce qu'il nous décrit dans son livre, son récit de guerre, qui est très, très savoureux, si vous avez la chance de mettre la main dessus. Lui, on arrive le 18, on lui dit, il y a quelque chose qui se passe. On le mentionne même pas, c'est pas un débarquement. Ils savent pas s'ils vont être en avion, ils savent pas si... Préparez-vous, il se passe quelque chose. Les fusiliers Mont-Royal sont séparés. Une partie sont envoyés avec des régiments de l'Alberta et des Anglais. Et ils vont être mis sur les bateaux. Arrive à Dieppe. Malheureusement, c'est un fiasco au niveau militaire. Les Allemands les repoussent tout de suite sur la berge. Là, aujourd'hui encore, c'est tellement un point d'interrogation comment une opération de cette envergure peut se faire sans support aérien, sans couvert naval. C'est l'énigme de la Deuxième Guerre mondiale. Pour ce qui est des Gaspésiens, peu de Gaspésiens vont participer. Il y a un Gaspésien qui, lui, participe avec, au débarquement de Dieppe qui s'appelle William Sainte-Croix ou William de Sainte-Croix, qui était natif de Gaspé. Il avait à l'époque 22 ans. Il était dans le Queen's Own Cameron Islander of Canada. J'ai trouvé à peu près aucun autre Gaspésien qui était dans les rangs de ce régiment, ce bataillon. Et je ne sais pas pourquoi il était... J'ai pas trouvé avec... Il y a peu d'écrits sur lui. Mm-hmm. Il va avoir fait son entraînement comme les autres et il va être un des seuls Gaspésiens à y participer, mais surtout le seul Gaspésien à mourir. Il est enterré dans le cimetière de Seine-Maritime à Eau-sur-Mer. Si jamais vous passez dans le nord de la France, vous pouvez aller voir une quantité phénoménale de mémorial ou d'épitaphe de soldats gaspésiens, dont M. Sainte-Croix qui a laissé sa vie au débarquement. Donc, c'est un fiasco. Les troupes qui n'ont pas été faits prisonniers vont être rapatriées tout de suite en Angleterre et quelques prisonniers qui, eux, non gaspésiens, mais des soldats quand même canadiens qui vont être faits prisonniers et qui vont passer pour eux, la guerre est finie, et qui vont être prisonniers en Allemagne, ce qui ne sera pas nécessairement...
Une partie de plaisir.
Le débarquement d'hier va tellement marquer l'histoire que le léger corner... au Nouveau-Brunswick. Il y avait beaucoup de gens aussi du Nouveau-Brunswick qui vont participer au débarquement de Dieppe, qui vont changer le nom de la ville.
Ben oui, parce que je me disais, il me semble qu'au Nouveau-Brunswick, il y a une ville qui s'appelle Dieppe.
Tout à fait. Ça va être donné en honneur justement des soldats du Nouveau-Brunswick. Ils vont changer le nom de Léger Corner. Légère ou Léger Corner. Comme ça me prendrait quelqu'un du Nouveau-Brunswick pour. Et ils vont changer de nom et ça va devenir Dieppe au Nouveau-Brunswick, qui est très près de Moncton.
1942, c'est déjà une année noire pour les Alliés. Le débarquement de Dieppe, ça va pas très bien. On n'en sort pas nécessairement grand gagnant. Alors, la question qu'on peut se poser, comment en ressortent les Alliés? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui ressort de ça?
Malgré l'échec du débarquement de Dieppe, il y a on voit les premières failles, on pourrait dire, dans l'édifice de la militaire nazie. Sur le front de l'Est, ils commencent à reculer. Stalingrad tient. Ils ne vont pas gagner. Ils ne vont pas prendre Stalingrad. Ils ne peuvent pas prendre Leningrad. Les troupes alliées vont commencer à réinvestir les pays autour de l'Égypte. Fait qu'il y a un vent, on sent le vent tourner, et là-dessus, on va laisser le mot de la fin à Winston Churchill, qui va nous dire « Ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. »
Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning.
La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale est une production de Radio Gaspésie avec le soutien financier du Fonds canadien de la radio communautaire. À la recherche et à l'animation, Félix Fournier. À la réalisation et à l'animation, Émilie Gagné. Un merci particulier aux historiens et passionnés d'histoire, Fabien Sinette et Tom Eden. Merci aux familles, proches et descendants de ceux et celles qui ont participé à l'effort de guerre pour leur témoignage. Pour plus d'épisodes et d'informations, visitez le radiogaspésie.ca dans la section podcast.